prêt à partir à l'aventure et à entendre du pays ?
Hippipipora vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France, Auvergne-Rhône-Alpes.
Emboîtez le sabot de notre guide chamois et suivez-le à travers champs, lacs et montagnes, plaines vallonnées et chemins escarpés.
L'herbe s'efface bientôt et laisse place au pavé des villes et villages.
Alors, entre bribes d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité,
laissez place à l'authenticité.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, votre chamois nous emmène à la découverte des pépites gustatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, du petit déjeuner en passant par le goûter jusqu'à l'incontournable digestif. Nous irons à la rencontre de Stéphane, qui nous parlera d'un des fromages incontournables de l'Ain. Allez, à table. Il est 8h, le soleil est déjà levé et il est temps pour moi de prendre mon premier repas. Pour mon petit déjeuner, je vous emmène en Auvergne. Ce matin, j'ai choisi de déguster une flognarde. On peut aussi dire flougnarde ou fougnarde. Pour la petite histoire, la flognarde est un gâteau à base de pâte à crêpes qui, à l'origine, était mangé nature avec du rhum. Son origine est disputée entre les Limousins et les Auvergnats.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim.
Aujourd'hui, la flognarde se mange le plus souvent avec des pommes, avec des abricots ou avec des cerises. Mais ne dites surtout pas que c'est un clafoutis. Pour l'accompagner, je vais prendre un yaourt nature et un grand verre de jus de pomme. Ça devrait faire l'affaire jusqu'au déjeuner.
Le déjeuner, et puis le goûter, le dîner, le souper. Il est au courant pour ça, pas vrai ?
Un chamois en ville ? Mais il va neiger demain.
Mais non, si je suis en plein centre de Lyon, c'est pour te présenter une des plus grandes fiertés de la ville, le bouchon lyonnais.
Mais c'est pas plutôt parisien que le périph', ça ?
Mais non, pas du tout. Le bouchon lyonnais a été créé sur la base des traditions du mâchon lyonnais. À l'origine, ces mâchons désignaient le repas matinal pris vers 9h ou 10h, composé notamment de charcuterie, de vin et d'abats, que partageaient les canuts, les fameux ouvriers de la soie lyonnais. Avant que les bouchons ne deviennent populaires, ces encas n'étaient pas considérés comme des repas. Ce type d'établissement propose donc des plats simples, mais riches en saveurs à mâchonner.
Et maintenant, du coup ?
Aujourd'hui, les bouchons sont connus pour les bons petits plats typiques, simples, à base de produits frais du terroir, préparés sur place avec amour. On y retrouve des quenelles, de la cochonaille, le gratin de cardon à la moelle, le tablier de sapeur, le gâteau de foie de volaille, la cervelle de canut et la tarte à la praline.
Où sont les poulards ? J'ai faim !
Le tout accompagné de l'indispensable pot lyonnais, du Beaujolais ou du Côte-du-Rhône, bien sûr. Les bouchons, c'est aussi des tables rapprochées, des nappes à carreaux rouges et blancs, du mobilier en bois et des casseroles suspendues au mur. Mais c'est aussi et surtout une ambiance et la convivialité. C'est comme à la maison. Bonne franquette, générosité et plaisir entre amis.
Et donc t'as des adresses incontournables à me proposer ?
Alors oui, je les ai pas tous testées, mais je peux te proposer la Meunière, qui se trouve rue Neuve, le Poêlon d'Or, rue des Remparts d'Aînais, ou encore la Tête de l'Art, qui se trouve rue Désiré. Allez, viens, je t'emmène.
C'est l'heure du goûter, on va se régaler.
Alors, qu'est-ce qu'on prend pour le goûter ?
Eh bien, je vais vous proposer une galette de Pérouge.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est une tarte au sucre. En fait, c'est une spécialité culinaire de la cité médiévale de Pérouge, donc dans l'Ain.
Et comment on la fait ?
Alors, pour se faire, il vous faut tout simplement de la levure et de la farine, du beurre, un œuf, du sucre et un zeste de citron, rien de plus.
Et ensuite ?
Eh bien, vous mélangez tous les ingrédients. Quand c'est fait, il faut pétrir la pâte et la laisser lever pendant 2 heures. Ça, du coup, là, je l'ai fait en amont pour pas qu'on attende trop longtemps pour la goûter. Ensuite, vous avez juste à étaler la pâte sur une plaque en rabattant les rebords. Vous ajoutez du sucre et du beurre, parce qu'il faut beaucoup de beurre. Et ensuite, vous enfournez pendant 10 minutes.
Et c'est quoi son histoire ?
Alors, la galette, elle a été créée en 1912 par Marie-Louise Thibault. À la base, elle était fabriquée avec de la pâte levée au citron et du coup, comme je vous le disais, beaucoup de beurre. Et par contre, il ne faut surtout pas la confondre avec la galette Bressane qui, elle, est garnie de crème ou de praline. Et en fait, c'est un peu le produit phare de Pérouge.
Ah, je crois que c'est prêt.
Alors, il faut la manger tiède, c'est très important. Et en général, on l'arrose d'un bon verre de cerdon ou de cidre. Du coup, je ne sais pas ce que vous préférez.
Cerdon, du cerdon.
Allez, du cerdon.
Et du coup, on mange quoi ce soir?
Alors là, on va partir à la rencontre de Stéphane, un producteur laitier de l'Ain qui va nous parler du braise bleu. Est-ce que vous connaissez?
Non.
Pas du tout.
Alors suivez-moi.
Follow me. Suivez-moi.
Bonjour Stéphane, donc vous êtes éleveur laitier dans l'Ain.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors oui, expliquez-nous un petit peu votre exploitation.
Donc l'origine de l'exploitation, alors c'est une exploitation familiale. Je suis la troisième génération. Les parents, en 78, ils se sont mis en groupement. On appelle ça un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, avec un de mes oncles, pour regrouper tout ce qui était laitière et puis optimiser au niveau du matériel, les bâtiments. Ensuite, dans les années 90, il y a un troisième couple qui a intégré, donc qui avait aussi du lait et un atelier de porc naisseur-engraisseur.
Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Ça faisait 6 personnes. Ensuite, moi, je suis rentré sur l'exploitation. Je me suis installé en 93.
D'accord.
Donc, on était 7 associés. On avait 120 laitières, 240 hectares. Après, il y a eu des départs à la retraite à partir de 2003. Donc, mes parents sont partis. Il y a eu un autre départ dans les années 2018. Donc, on se trouve plus que deux. Donc, actuellement, nous avons 540 laitières. Nous produisons 1 200 000 litres de lait par an. Donc, nous sommes dans un système de traite robotisé depuis 2007. On n'a plus que 180 hectares. Nous avons plus de porcs. Donc, on est basé uniquement sur la production laitière. La race des vaches, donc aujourd'hui, c'est on a 3 races. La Prime Holstein, donc ça, c'est les noires, noires et blanches.
D'accord.
De la Red Holstein, ça c'est la rouge et blanche. Et puis nous avons des Montbéliard.
Et du coup, donc, voilà. vous parliez de culture, vous cultivez quoi?
Alors actuellement, nous cultivons uniquement pour l'autoconsommation, une 60aine d'hectares qui est cultivée en maïs. C'est pour faire de l'ensilage. Alors on fait aussi bien de l'ensilage d'herbe au printemps que de l'ensilage de maïs à l'automne. Donc, l'ensilage d'herbe au printemps, quand l'herbe arrive à bon stade, on la fauche, on la ramasse on appelle ça une ensileuse, et on stocke ça dans des grands silos couloirs qu'on bâche, qu'on rend hermétique, et on donne ça après sur tout le reste de l'année.
Donc, c'est pour nourrir les vaches.
Pour nourrir les vaches. Et le maïs également, donc le maïs, on le sème au printemps, au mois d'avril, et on récolte ça au mois de septembre, et pareil, on met ça dans des silos et pour nourrir les animaux l'hiver. Donc voilà, pratiquement tout en ensilage, et sinon toute le reste de la surface, c'est de la prairie, du pâturage ou pour de la fauche, pour faire du foin.
Et du coup, donc vous avez une exploitation de vaches laitières, et votre lait il part où?
Alors, notre lait, il part à la laiterie de Bressors. Donc, c'est à 10 km de l'exploitation. Donc, ils ont deux sites de production. Donc, notre lait, il part sur le site le plus près, donc Servas. Alors là, il transforme en braise bleue et puis autres produits bleus. Et sinon, il y a l'autre site, c'est Griège, et ils font tout ce qui est apérivrai.
C'est vraiment frais.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est frais, hein.
Mmh. Ah, c'est vraiment vrai.
C'est vraiment frais.
Et du coup, ce fromage, il reste en France ou il part aussi à l'international?
Alors, il y en a une partie qui part à l'international. Alors, je peux pas vous dire exactement où. Par contre, je sais que sur le site de Servas, je sais qu'ils font un bleu spécial pour l'Allemagne.
D'accord.
Après, c'est le packaging qui est spécial pour l'Allemagne, mais je sais qu'il y a une partie qui part en Allemagne.
Avec ce braise bleu dont vous nous parliez là, quelles recettes on peut faire?
Le braise bleu, c'est un fromage qu'on mange en fin de repas, normalement. C'est un bleu qui est assez doux, savoureux. Ensuite, il y a des recettes. Chez nous, on fait ce qu'on appelle la bressiflette. Donc, c'est pas comme la tartiflette, mais pas loin. Donc, on enlève les lardons et le reblochon. Et chez nous, on met du poulet. Et puis, on remplace le reblochon par le braise bleu.
D'accord.
Donc, voilà.
Ça donne envie, tout ça, dis donc.
C'est très, très bon. C'est très, très bon. On peut trouver aussi des gratins de pâtes au braise bleu. Après, il y a aussi des sauces au braise bleu.
D'accord. On peut le mettre un petit peu partout.
On peut le mettre un peu partout, exactement.
Sinon, avec ce braise bleu, quel vin vous nous conseilleriez?
Moi, je conseillerais un petit buget rouge.
Eh bien, écoutez, Stéphane, merci pour toutes ces explications et pour tous ces conseils. Et puis, peut-être à une prochaine fois autour d'une table.
Pourquoi pas? Eh bien, je vous remercie.
Merci
puis,
à vous.
Passez une bonne journée.
Maintenant, direction la Savoie pour déguster la vraie tartiflette. La tartiflette avec le vrai reblochon local.
Des pommes de terre. Des lardeurs. Des oignons. Et du reblochon.
Nous avons déniché pour vous la meilleure recette de tartiflette au monde. Alors, ouvrez grand vos oreilles, la voici. Pour 6 personnes, vous commencez par faire cuire à l'eau ou dans un autocuiseur vapeur 1,5 kg de pommes de terre. Pendant ce temps, faites revenir dans une poêle 300 g de lardons fumés. Quand les lardons ont roussi et sué leur gras,
le gras, c'est la vie.
Rajoutez dans la poêle 750 g d'oignons jaunes émincés. Les oignons doivent prendre une couleur légèrement caramélisée. Déglacez le tout avec 23 cl de vin blanc sec, un Apremont de Savoie par exemple. Poivrez, puis réservez. Retirez la croûte d'un demi-reblochon et faites-en des petits dés. Veillez à acheter un reblochon fermier qui est bien plus crémeux. Pour le distinguer du reblochon fruitier, regardez la pastille sur le fromage. Celle du reblochon fermier est verte, celle du reblochon fruitier est rouge. Dans un plat légèrement beurré, alternez une couche de pommes de terre, une couche de dés de reblochon fermier, une couche d'oignons et de lardons, et ainsi de suite. Quand votre plat est rempli, ajoutez tout en haut un reblochon entier avec sa croûte qui aura été préalablement coupée en deux par la tranche. Enfournez le plat dans un four à 180 degrés pendant 30 minutes, puis passez sur le mode grill pendant 5 minutes supplémentaires pour faire bien dorer le dessus. Servir chaud, avec une salade verte par exemple. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter? Retrouvez toutes ces recettes évoquées dans la description de cet épisode. Allez, bon appétit!
Et en digestif, vous êtes plutôt chartreuse ou génépi?
Alors pour moi, ce sera le génépi de la distillerie des Alpes à Chambéry.
Moi je suis un génie car je pompe le génépi!
Et non, pour moi, ce sera la chartreuse verte des pertes chartreux.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à Stéphane pour le temps accordé lors de cette interview. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter les pérégrinations de votre chamois.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue.
C'était Hippipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VG Organisation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure aux côtés de notre guide chamois, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de diffusion et parlez-en autour de vous. On se retrouve très vite.